ce matin, on parle de, entre autres, de papa. Et j'ai toujours apprécié dans les dernières 10 années une chanson qui parle des papas et que vous connaissez bien. Hein? Vous connaissez? Hein? Parce que Stromae a fait un chef-d'œuvre. Hein? Si vous ne connaissez pas Stromae, alors c'est un compositeur spécial, Stromae, et il a fait cette chanson « Papa Outé ». Un chef-d'œuvre, vraiment, là. Mais je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps de lire toutes les paroles. On les entend, des fois on en échappe, là, mais de lire le texte, c'est un bijou de texte. Vraiment, là, on voit on voit un peu ce qu'il a vécu, évidemment, puis tout ce défi en société de la présence d'un père présent, engagé, qu'on peut se fier dessus. Souvent, le rôle maternel est moins ébranlé, souvent, évidemment, il y a des manquements ici et là, mais le rôle maternel est, on dirait, plus souvent fiable, le côté maternel des femmes, et ce défi des hommes d'être à la hauteur, de remplir ce rôle d'être père, d'être présent, de pas juste pourvoir, mais d'être là, de tout cœur. Et ce chant souligne ce défi. Comment on fait des papas, hein? Tout le monde sait comment on fait des bébés, mais comment on fait des papas? Comment ça se fait, ça, des papas? Et j'aimerais vous dire quelque chose de bien important ici, là. OK? Écoutez bien. La recette pour faire des papas est celle-ci. J'ai toute votre attention? Est-ce que j'ai toute votre attention?
Oui.
Oui, OK. Ici, à l'Église baptiste de Trois-Rivières, on croit que pour faire un bon papa, que ce papa-là ait eu une mauvaise héritage ou pas, qu'il a été bien instruit ou pas, qu'il a été aimé ou pas, s'il connaît le Père Céleste et qu'il a une relation avec le Père Céleste Créateur, s'il croit dans son Fils Jésus et qu'il dépend du Saint-Esprit, il est possible pour lui d'être un excellent père dans le nom de Jésus. Amen. C'est ce qu'on croit ici à l'Église baptiste. Oui, applaudissons le Seigneur parce que c'est lui qui fait des papas. Et peu importe notre héritage paternel qu'on a eu, par le nom de Jésus, il y a même de la musique pour ça, c'est pas merveilleux, hein? En même temps, juste quand j'en parlais, là. Peu importe ton horizon, tu peux, avec l'aide du Seigneur Jésus, être le père que Dieu veut que tu sois. Et parfois, tu peux t'en rendre compte tard dans ta vie. Et finalement, c'est en tant que grand-père que tu vas améliorer ton rôle de père. Mais avec Jésus, tout cela est possible. Et c'est ce qu'on croit ici à l'Église baptiste évangélique de Trois-Rivières. Et on est ce matin dans le livre de Jean. Je vous invite à aller dans le livre de Jean. Et on est dans une série dans le livre de Jean, alors qu'on est en train de regarder, et on va la terminer la semaine prochaine. Peut-être qu'il y aura une ou deux prédications par un des pasteurs en début juillet, mais ça reste à déterminer. Mais on est dans une série d'une douzaine, plus ou moins, de prédications dans le livre de Jean, où ce qu'on rencontre, en fait, c'est des gens qui rencontrent Jésus. Jésus rencontre des gens, et on voit qu'après avoir rencontré Jésus, notre vie change. Il y a quelque chose. Et chaque rencontre est unique. Chaque rencontre est personnelle. Chaque rencontre amène un changement particulier dans la foi, dans les besoins de l'individu qui rencontre Jésus. Et Jean est particulier en ceci, qu'il développe davantage des rencontres que Jésus a eues à des personnages qui sont moins développés ou que c'est moins personnel dans les autres évangiles, dans les synoptiques qu'on appelle. L'évangile de Jean a sa saveur à lui. Et Jean est excessivement relationnel dans le développement des relations que Jésus avec, à décrire qu'est-ce qui s'est passé, le dialogue, la prise de conscience et comment il prend soin de ses disciples. Et là, tout à coup, on apprend le nom de certains disciples dans certains épisodes qu'on n'avait pas vu leur nom dans d'autres épisodes qui sont racontés des évangiles, mais dont le nom n'est pas raconté. Et on a vu jusqu'à présent une multitude d'hommes et de femmes. On a vu jusqu'à présent 5 hommes et 4 femmes qui ont rencontré Jésus, que ce soit Pilate lorsqu'on était à Pâques, la femme samaritaine au chapitre 4. On a vu Nicodème au chapitre 3, un homme religieux après qu'il ait rencontré une femme qui est d'une autre religion, qui utilise différemment le Pentateuque. Thomas, cet homme à qui Jésus invite à une pleine confiance après sa résurrection. Marie, sa mère. La femme adultère qui aurait dû être rencontrée avec un homme adultère, c'est bizarre, l'homme adultère a disparu. Hein? Et là, il y avait une rencontre avec cette femme utilisée par des hommes pour tenter Jésus, mais il n'y avait pas à cœur son âme. Mais Jésus, lui, Il n'avait pas perdu le contrôle. Père Céleste s'occupe que cette femme rencontre un homme qui va lui faire du bien et pas profiter d'elle, pas l'utiliser. Jésus rencontre cette femme dans une détresse extrême et prend soin de son âme d'une manière extraordinaire. La sensibilité de Jésus est là et est frappante. Il rencontre également Pierre qui ne veut pas se faire laver les pieds, Marie qui va laver les pieds de Jésus. Et finalement, l'homme aveugle qu'on a vu la semaine dernière avec Pasteur Tony. Ce matin, on est à la rencontre d'un homme qui s'appelle Philippe, qui, tout comme quelques autres personnages, on a quatre épisodes de sa vie. Quatre épisodes, on va dire de sa vie, mais quatre petits épisodes où ce qu'il a, il est nommé dans une interaction avec Jésus. Et on va regarder ces quatre épisodes et tirer des leçons, et en particulier retirer des paroles d'une de ces rencontres-là, où ce que Jésus nous donne un appel, je crois, à la consécration à tous et chacun, mais à particulièrement ce matin, j'oriente mon appel à la consécration des pères. Vous savez, nos enfants n'ont pas besoin d'un père parfait. Il n'y en a pas de père parfait. Et nos enfants n'ont pas besoin d'un père qui n'a jamais fait de grosses gaffes non plus dans sa vie, qui maîtrise toutes les questions qu'on lui pose. Nos enfants ont besoin de pères qui, envers et malgré les échecs et les duretés de la vie, sont consacrés. Et consacrés parle de l'attachement à Dieu. Parle de « quand j'ai eu des échecs, je demande pardon, je retourne au Père Céleste ». Quand j'ai des échecs, je ne laisse pas de me définir, mais je reviens au Père Céleste, je demande pardon et je réclame son aide pour que lui continue à me transformer de plus en plus à son image. Et où est-ce que j'apprends tranquillement à travers les années que ma vie est si bas et mes aspirations ne sont pas la priorité numéro un dans ma vie, mais que Dieu qui règne dans ma vie, la gloire de Dieu dans ce que je fais est le plus important. Et que quand je suis tombé de cet objectif-là, je reviens à lui, je demande pardon à ceux autour de moi et je reprends le chemin avec Jésus. Et on va parler de tout ça à travers l'exemple de Philippe et les paroles de Jésus, en particulier au chapitre 12. Mais commençons en lisant une courte extrait du chapitre 1 pour commencer ce matin. Je suis au chapitre 1 et je voulais à partir du verset 43. Le lendemain, après une rencontre que Jésus avait eue avec Simon, on lit ceci. Jésus résolut de gagner la Galilée. Il trouve Philippe et lui dit « Suis-moi ». Or, Philippe était de Bethsaïda, ville d'André et de Pierre qui avaient été rencontrés précédemment. Il va trouver Nathanaël, ce Philippe-là, et il dit, « Celui de qui il est écrit dans la loi de Moïse et dans les prophètes, nous l'avons trouvé, c'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. »« De Nazareth, » dit Nathanaël, « peut-il sortir quelque chose de bon? » La petite ville, le rejet, le rapport, il n'y a pas une bonne réputation, c'est un village, il n'y a personne d'important qui vient de là, ces gens-là... Hein, des fois, on fait des commentaires comme ça. Chibougamo. Hein, c'est ça. Chappé. Hein, moi, je peux dire ça, j'ai vécu là. On a des noms comme ça. On a tous des gens, des petits bleds qu'on connaît. C'est une ville comme ça. Là. Dans tous les pays du monde, dans toutes les régions. Et pour eux autres, en Galilée, c'est Nazareth. Tu parles de la ville de loser pour laquelle viendrait le Messie. T'es-tu sûr de ton affaire? Nazareth. On continue. Il y a des préjugés. Philippe lui dit, « Viens et vois. » Il ne s'obstine pas avec lui. Il fait pas la... « Viens puis viens voir » à part de ça, comme il faut. Là. Jésus regarde Nathanaël qui venait à lui. Et il dit à son propos, « Voici un véritable Israélite en qui il n'y a point d'artifice. » C'est pas un trompeur. C'est un gars vrai. C'est pas qu'il est parfait, mais il est vrai. C'est pas un gars trompeur qui donne des impressions de quelque chose. « D'où me connais-tu? » lui dit Nathanaël. Jésus de répondre, « Avant même que Philippe ne t'appelle, alors que tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Et là, ici, ça laisse place à beaucoup de quoi tu parles. Des fois, le Talmud invitait les gens, quand c'était le temps de méditer la loi de Moïse et de prier, d'aller sous un arbre, était la coutume, était la manière de faire, et de se recueillir là. Est-ce qu'il l'avait vu dans les minutes auparavant, dans les heures auparavant, en train de prier Dieu, en train de leur réciter la loi, de prier, de méditer sur Dieu, et c'est à ça qu'il fait allusion. C'est pas clair, mais le gars qui l'entend, cette parole, il comprend quelque chose. Celui-ci a une identité spéciale et il me connaît comme personne ne me connaît. Et donc, il va répondre ceci. Nathanaël reprit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier, tu crois, tu verras des choses bien plus grandes encore. » Amen. Prions le Seigneur. Père Céleste, bénis la lecture de ta parole dans nos cœurs. Fais-nous du bien ce matin alors qu'on ouvre nos yeux et qu'on vient te voir dans ta parole. Parle-nous personnellement. Rencontre-nous dans nos besoins ce matin. Père et mère, enfants et grands-parents, peu importe notre statut, Seigneur, ce matin, nous avons besoin d'entendre la parole de Dieu. La parole de Dieu personnelle. La parole de Dieu qui sait parler, trancher dans mon cœur entre l'âme et l'esprit. Qui sait dénouer les choses qui sont tout mélangées dans ma tête. Qui sait répondre à l'inquiétude, la tristesse, le besoin immédiat comme nul autre, parce que tu es le Père céleste. Et nous le demandons, Seigneur, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Ce matin, la vérité à retenir est la suivante. La consécration n'exige pas une compréhension parfaite de Jésus, mais une volonté constante de le suivre et lui faire confiance et le servir. C'est ma déclaration ce matin alors qu'on entre dans cette rencontre de Philippe avec Jésus. Et dans cette première rencontre, Philippe répond à l'appel de Jésus. Il dit « Suis-moi » et il le suit immédiatement. Il ne connaît pas tout de Jésus, il va découvrir plein de choses de Jésus, mais il le suit. Il répond à l'obéissance, par obéissance, sans tout savoir. Et il s'engage et il marche avec Jésus. Et immédiatement, ce qui nous marque, c'est qu'il va faire quelque chose de tellement simple, mais d'extraordinaire. Il va avoir un impact pour toujours dans la vie de Nathanaël. Il va simplement ouvrir la bouche. Il a fait une rencontre extraordinaire. Et quand tu fais une rencontre extraordinaire, tu ne peux pas le garder pour toi-même. Et il va tout simplement parler à un autre de cette rencontre extraordinaire et il l'invite à venir voir. Vous savez, en fin de compte, c'est juste ça, être un témoin de Jésus. Te rencontrer Jésus. Jésus t'a bouleversé. Et c'est de raconter celui que tu as rencontré. C'est pas de dire les choses que tu connais pas de lui, c'est de dire ce que tu sais de lui et ce que tu as vécu. Hier, à la rencontre que j'ai eue chez un ami à Victoriaville, un ami d'enfance, ça a été mon meilleur ami pendant 10 ans de temps. Et c'était un bon ami, d'une bonne famille, et un homme de famille. Et on était seulement lui et moi de Chigamo, puis un autre couple de Chigamo qui se sont mariés plus tard, et que j'ai joué au soccer quand j'avais 10 ans avec, qu'on a travaillé le même emploi, moi puis son épouse, etc. Et on placotait, on rattrapait 35 ans en arrière. Il se rappelait des souvenirs et évidemment on parle de travail, etc. Et il commence à me poser des questions sur comment je passais à travers mes épreuves face au fait que j'étais pasteur, la foi, etc. Et j'ai pu commencer à y parler de ma relation avec le Créateur. Et là tout de suite, c'est « Ah, j'aime ça que tu me dis là. » Il dit « Tu me parles juste de la relation avec le Créateur. » Et là, il me posait des questions sur ma relation avec le Créateur. En quoi c'est concret parler avec le Créateur? Comment le Créateur me répond? Comment il me rencontre dans mes détresses? Puis dans les situations de la vie, tu sais, il peut pas te dire des choses directes. Fait, j'ai juste partagé ma relation avec le Créateur. Comment le Créateur répond vraiment à mes besoins, donne du sens à mes détresses, me donne de l'aide quand je suis découragé de moi-même, quand je passe des moments difficiles. Puis le Créateur rencontre vraiment mes besoins. Et je parlais de ce sentiment de satisfaction que tu vis. sais, quand tu as rencontré quelqu'un, je disais, Christian, quand tu rencontres quelqu'un, puis là, tu as eu une rencontre avec cette personne-là, il me semble que tu t'es ouvert les tripes, tu t'es mis les tripes sur la table. Il n'y avait plus de cachette. Tu parlais de comment tu te sentais vis-à-vis de telle chose ou une épreuve que tu as vécue. Puis là, l'autre s'est ouvert. Puis là, tu le voyais dans ses yeux, par les larmes ou par les émotions que les yeux nous transmettent, que le visage, le corps communique lorsqu'on communique. Puis qu'il y a vraiment une connexion honnête, sincère. Et tu sors de cette rencontre-là et tu te sens rassasié. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, il n'y a personne qui comprend ce que je veux dire. Vous me regardez, là, puis c'est comme... Y a-tu quelqu'un qui comprend ce que je veux dire? Hein, ces rencontres-là, là, puis tu reviens chez vous, puis il y a une satisfaction. Tu es rassasié. C'est comme si tu n'as pas besoin d'un peu plus. C'est complet, là. Tu as tout ce que tu as eu besoin, là, tu sais, là. Et là, j'ai parlé de ma relation avec Dieu dans ce sens-là. Et c'est drôle, quand on est parti le soir, j'étais le premier à partir parce qu'il était rendu déjà 10 heures, j'avais une heure de route. Et il me serrait la main, on a marché ensemble. Et Joël, il dit, « Est-ce que tu es rassasié aujourd'hui? » J'ai dit, « Oui, j'ai senti qu'on a eu vraiment une rencontre satisfaisante. » Et ça a été intéressant. J'ai pas débattu sur l'identité de Jésus, j'ai pas donné un verset, j'ai pas fait un argumentaire, un apologétique de ma foi. J'avais rien à prouver. Il va juste me demander comment c'est vrai ma relation avec, comment ça peut être concret ma relation avec le Créateur. J'ai juste témoigné de mon expérience et de ma vie avec Jésus, avec Dieu le Père. C'est tout. Et n'est-ce pas ça la base? Que d'être un témoin. C'est juste ça. Des fois, on se casse la tête, puis il faudrait que j'en sache plus, il faudrait que je sache les versets par cœur. Si on me pose des questions, puis là, je ne sais pas comment répondre, là, j'aurais avoir peur de. Puis là, peut-être que. Oublie toutes les peut-être que. On s'en fout des peut-être que. Peut-être que ça n'arrivera pas aussi. Hein? Hein? Y a-tu bien des peut-être que qui n'y arrivent pas? Puis on se fait plein de soucis, de scénarios, puis. Vous savez, j'ai juste fait une chose. J'étais en route du Seigneur. Accorde-moi de t'honorer. Je ne sais pas qui je dois rencontrer, mais accorde-moi de t'honorer. Je ne sais pas. Tu sais, la plupart du monde, je ne connaissais pas. Je suis juste honoré. Je n'ai pas ouvert de porte. J'ai juste eu une relation avec quelqu'un, puis ça a développé qu'il m'a posé des questions, puis j'ai pu témoigner. J'ai pas fait rien de spécial. J'ai juste raconté. Et ça, tout le monde peut le faire. Pas besoin de compétences théologiques, d'un certificat en théologie, d'avoir lu ta Bible 10 fois les 10 dernières années, aussi bon que ça puisse être. L'élément déterminant, c'est as-tu une expérience avec Jésus? As-tu une relation avec le Créateur? Et si tu en as une, fais juste en parler à l'autre et comment cette relation-là est déterminante dans ton bien-être au quotidien. Et quand tu passes des moments difficiles, en quoi ta foi t'apporte quelque chose de concret quand tu es devant une épreuve, que tu es à bout ou quand tu es dans le deuil. C'est tout. Viens et vois mon ami Nathanaël. C'est tout ce qu'il a fait. Et il a amené à Jésus. Et c'est qui a amené la transformation dans le cœur de Nathanaël? Jésus. C'est pas Philippe qui a changé son cœur. C'est pas Philippe qui l'a converti. C'est Jésus qui l'a converti. Il l'a juste conduit à celui qui convertit les âmes. Jésus. Et c'était l'élément déterminant, conduire quelqu'un à Jésus. À la fin de la conversation, je veux juste m'assurer, est-ce que j'ai prononcé le nom de Jésus comme le moyen du Créateur pour que je puisse faire la paix avec le Créateur, comme le moyen d'être sauvé? Parce que c'est le nom de Jésus qui convertit quelqu'un, qui change quelqu'un. Il n'y a aucun autre nom qui peut sauver mais que le nom de Jésus. Et vous savez, quand j'écoute des témoignages, souvent une des choses que j'aime toujours porter attention quand j'écoute un baptême, j'ai hâte de savoir c'est qui la première personne que Dieu a utilisée pour parler à cette personne-là. À chaque fois, je suis curieux de voir c'est qui que Dieu a utilisé. Et des fois, il y a une personne en particulier, des fois, il y a une séquence de 3, 4, 5 personnes, des rencontres à différents intervalles, une personne là, puis une autre personne là, qui a parlé de Jésus d'une manière qu'on ne s'y attend pas du tout. Et des fois, ce n'est pas les personnes qu'on pensait. C'est tellement beau et puissant, cette question-là d'offrir le cadeau de témoigner tout simplement à quelqu'un de ma foi. C'est le plus beau des cadeaux que vous pouvez faire. Le plus beau des cadeaux. Mais remarquez aussi la question des préjugés. Hein? Il y avait des préjugés. Et Jésus, il ne touche pas à ça. L'autre disciple, il ne touche pas à ça. Souvent, on est porté comme s'il faut répondre à toutes les objections. Hein? Il n'y a pas eu d'objection qui a été adressée ici. Il l'a juste rencontré. Merci. Et en l'ayant rencontré, Jésus s'est occupé de parler du cœur. Et qu'est-ce qui est arrivé après ça? Nazareth, c'était la dernière affaire dans sa liste de problèmes. On s'en fout de Nazareth. Je viens de rencontrer celui qui me connaît. Et tout à coup, le reste est cessant. Nous, on peut être distrait par des préjugés, des arguments à devoir faire pour prouver un point. Et souvent, c'est un piège. Souvent, c'est vraiment un piège pour s'embourber dans des détails qui ne sont pas utiles, qui ne sont pas le nerf de la guerre. Qu'est-ce que Jésus a fait avec la femme samaritaine? Il a parlé d'un lieu d'adoration. Il dit, ouais, mais tout ça, là, c'est pas important. Il y a un jour où l'oreille adorateur, ça va être en esprit et en vérité. C'est plus le lieu qui est déterminant. Il a tout tassé l'argument pour ne pas s'embourber dans des dédales religieuses, des détails d'arguments, puis d'intelligence, puis de qui est le plus bel, la meilleure rhétorique dans l'argumentaire. La rhétorique ne sauve pas quelqu'un. C'est le nom de Jésus qui sauve quelqu'un. Et c'est à lui qu'on doit pointer les gens. Et c'est ce qu'il a fait en toute simplicité, passant par-dessus les préjugés. Et c'est l'amour de Jésus aussi qui nous aide des fois à nous parler à quelqu'un pour lequel on a des préjugés. Hein? On a tous des préjugés, les amis. On a tous des gens qu'on regarde avec un regard hautain, d'une autre niveau de vie, de l'autre sexe, d'une autre nationalité, d'un autre travail. Hier, je rencontrais quelqu'un, puis il ne voulait pas trop dire qu'il était un ingénieur. Puis à la fin, il dit, ouais, ben, je n'ose pas le dire, les gens ont tellement des présuppositions sur les ingénieurs. Je dis, ah, tu veux dire les gnagnagneurs? Il dit, c'est ça que je voulais dire. J'aime ça, des fois, tourner le fer dans la plaie un petit peu, là, avec amour. Ça paraît dans les yeux. Il y avait peur des préjugés, là, parce que là, les étiquettes, hein, certains métiers, etc. Et vous savez, c'est juste l'amour de Jésus qui nous aide à arrêter de regarder les gens avec des préjugés. Seigneur, remplis-moi de ton amour. Aide-moi à voir comment tu m'as aimé et toi, tu n'as jamais regardé l'autre avec les yeux extérieurs. Hein? J'écoute présentement la série House of David, la maison de David sur Prime. Une belle série qui n'est pas facile à regarder, là. Elle est tough, mais c'est l'histoire du roi David. Et c'est tellement une des vérités importantes, hein, que Samuel souligne. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde les préjugés humains. Non, il passe par-dessus les préjugés humains, il regarde au cœur. Mais quand je me sens aimé de Dieu, que je vois que Dieu a aimé mon cœur, il m'a regardé à moi, pas à un cœur qui méritait. Le Seigneur m'aide à faire la même chose, à passer par-dessus les préjugés pour regarder au cœur perdu. Au cœur qui n'est pas rassasié, au cœur qui est peiné, au cœur qui est découragé, au cœur qui peut-être même trouve que sa vie n'en vaut pas la peine. Que le Seigneur nous accorde cet amour de passer par-dessus. Et une dernière vérité que je remarque ici, c'est le Sauveur qui nous connaît parfaitement. Jésus va tout de suite juste établir, « Je te connais, toi. » Et de lui avoir dit sa connaissance sur lui. Et Jésus ne fait pas ça nécessairement avec tout le monde, là. Mais il a fait ça avec la femme samaritaine. Il a dit une vérité de sa connaissance sur elle. Il dit, tu te dis bien, tu as eu 5 maris, puis celui-là que tu es avec, ce n'est pas ton mari. Ça le sait ici. Le Créateur, le Fils de Dieu, Jésus me connaît. Comme personne ne me connaît. Et malgré qu'il me connaît, ça veut dire aussi avec les bonnes affaires, mais les mauvaises affaires. Les 5 maris, pour elle, c'était gênant. Il ne s'arrête pas à ça. Il ne s'arrête pas à ce qu'il connaît de moi que je ne voudrais pas qu'il connaisse puis qui serait gênant sur mon dossier. Jésus, je te connais. Je connais ton besoin. Je connais ton histoire. Je connais ton cœur. Et tout ça, je vois le roi d'Israël, je vois le Fils de Dieu. Une déclaration unilatérale de la divinité de Jésus et de sa royauté totale sur la terre et sur Israël. C'était suffisant pour le convaincre et de le suivre. Et qui Jésus a utilisé dans cette histoire-là pour parler à Nathanaël? Philippe. Et qu'est-ce que Philippe a fait? Il a juste ouvert la bouche. Il dit, viens et vois Jésus. C'est tout. C'est aussi simple que cela. Je vous amène à une autre histoire. Allez au chapitre 6 maintenant. chapitre 6. Et je vous lis quelques versets familiers. Je vous lis un petit peu, oui, cette histoire de la multiplication des pains. Et là, tout à coup, on a des noms des disciples qui sont mentionnés dans l'histoire et notre ami Philippe y apparaît. Intéressant. Et on lit ceci à partir du verset 5. « Ah, il avait levé les yeux, Jésus vit une grande foule qui venait à lui et il dit à Philippe, « Où achèterons-nous les pains pour qu'ils aient de quoi manger? » En parlant ainsi, il le mettait à l'épreuve. Il savait qu'en lui, ce qu'il en allait faire, déjà, il avait déjà son plan. Là. Il sort pas ses cartes, il garde ses cartes dans sa manche. Une expression québécoise de poker. Peut-être que c'est mal placé, mais on comprend l'idée. Hein. Il garde les cartes dans sa manche. Et il dit pas tout, il veut le mettre au test. Philippe lui répond, « À 200 deniers de pain ne suffirait pas pour que chacun reçoive un petit morceau. » Et là, on apprend que Jésus, dans ce moment-là, a une attention particulière envers Philippe. Il aurait pu demander à plusieurs autres. Pourtant, c'est à Philippe qui demande cette question-là. Les autres sont probablement témoins. Mais là, ici, il veut mettre Philippe devant le défi qu'il y a un besoin ici, puis il veut l'amener à faire un calcul. Peut-être ici que Philippe a tendance à calculer. Et là, il dit, ben, comment ça coûterait, tu penses, pour nourrir tout ce monde-là? Ah, écoute, même 200 deniers, même si ça avait 200 jours de valeur de salaire, approximativement, pense pas que tu serais capable de nourrir tout le monde. Parfait. On est d'accord. On est dans l'impossibilité, les amis. Là, il y a de la place pour Jésus. Il veut amener Philippe à voir les limites. Et que là, tout à coup, il y a de la place pour Jésus. Quand je suis arrivé au bout de mes capacités. Reconnaître ses limites. C'est une question rationnelle qu'il pose à Philippe. Il veut le faire réfléchir. Il veut lui montrer qu'il y a une impossibilité. Parce qu'évidemment, nourrir 5000 hommes, plus les femmes et enfants, c'est tout un défi. Et face à cette foule, évidemment, notre mentalité habituelle, c'est de calculer. C'est de calculer. On a un défi présentement au niveau des offrandes. On a un petit retard qu'on a accumulé avant l'été. Il y a un souci parce que dans l'été, ça ne s'améliore pas. La tendance humaine, c'est de calculer. On va juste comparer les autres années. Peut-être que ça va... On va rationaliser, de calculer. Si on met plus de pression, peut-être que... Puis ça. Mais devant ce qui semble irrémédiable humainement, le Seigneur veut que dans ma semaine, quand je pense à ça, « Seigneur, c'est toi à qui tout appartient. C'est ton budget, c'est pas le mien. Seigneur, occupe-toi-en, s'il vous plaît. » Et de retrouver mon calme, pas parce que j'ai calculé, parce que mon calcul, c'est que l'impossibilité est tout à coup la possibilité pour Dieu. On le répète, mon impossibilité est maintenant une possibilité pour Dieu. Quand que « Seigneur, c'est correct, j'arrête de m'en mêler », j'arrête d'essayer de... Non. Prends charge. Occupe-toi-en. Je suis dépassé. Je le reconnais. Et il veut qu'il vive ce moment-là, justement, pour voir c'est impossible. Et là, Jésus s'en est occupé. Et dans cette histoire-là, ce qui est intéressant, c'est que la solution des disciples, c'était « Renvoie la foule, Seigneur. Renvoie la foule, on se débarrasse du problème. » Pour Philippe, c'était « Jésus le fait calculer pour voir c'est impossible. » OK, financièrement, c'est pas possible. Après ça, pour André, à qui il va, André, il dit, « Ah ben écoute, Seigneur, j'ai une partie de solution. Y a un petit gars qui a sa boîte à lunch avec 2 poissons, 5 pains. » OK, tout ça est impossible. On n'est pas plus avancé. Mais Jésus, il dit, il y avait déjà des plans. Puis Jésus, lui, c'était quoi son plan? C'était la multiplication. Ça, il n'y avait personne qui avait pensé à ça. Tu vois, dans tous les groupes de consultés pour travailler à une solution au problème, personne n'est arrivé avec « Hey, on va suggérer à Jésus de faire la multiplication! » Personne n'avait pensé à ça. Mais Jésus avait déjà son plan. Je vais simplement offrir ce qui va être limité à l'homme. Cette petite boîte à lunch-là, je vais commencer avec ce qui a été offert. Puis je vais l'offrir au Seigneur, je vais prier. Et par la grâce de Dieu, je vais multiplier. Il n'y a personne qui s'est levé le matin en pensant à une solution comme ça. Mais le Père Céleste, par son Fils Jésus, rempli de l'Esprit Saint, pense à ce genre de solution-là qui me sort complètement de mes limites humaines. Tu as une limite ce matin? Dis merci Seigneur. T'es dépassé? Tout ton calcul y est passé? T'as cherché des solutions, il n'y a rien. Dans toute la multitude, c'est parfait maintenant. C'est le temps de juste le laisser à Jésus. Seigneur, j'arrête de m'en soucier, ça ne donne rien. Je te le donne, mon problème relationnel, mon problème financier, mon problème de deuil, mon problème de colère, mon problème de pardon, mon problème de trauma passé qui me bloque, mon problème de croissance spirituelle, mon problème de couple. Peu importe le problème, je te le donne, il n'y a rien que je peux faire. Je ne veux pas me dédouaner dans mes responsabilités, mais au niveau responsabilité, je ne peux pas faire plus, Seigneur. Fais-le, s'il vous plaît. Parce que là, il y a de la place pour Jésus. Amen. Et comme il est bon pour nous de régulièrement arriver devant des Goliaths, devant des murs de Jéricho, devant des impossibilités, parce que là, tout à coup, il y a de la place pour le Seigneur. La leçon à tirer, un auteur disait ceci, la leçon à tirer est claire. Chaque fois qu'un besoin se présente, donnez tout ce que vous avez à Jésus et laissez-le faire le reste. Il a amené les poissons et le pain. Qui aurait pu penser qu'il aurait pu utiliser les restants comme ça? Il n'y a personne. Moi, je suis chez nous, mes femmes me trouvent des fatigants, j'essaie d'utiliser les restants. T'sais, là. Mes tantes étaient comme ça. Elles faisaient des miracles avec des restants. T'sais. Jésus fait des miracles avec les restants. Pas moi. Moi, je peux pas taper ses nerfs avec mes restants. Mais Jésus fait des miracles pour de vrai avec des restants. Bien mieux que chacun d'entre nous pourrions penser. Vous savez, l'application pour ça, bien, c'est les ressources limitées que j'ai. Offrons-les au Seigneur. Et demandons-lui de faire ce qu'il veut avec mes ressources limitées. Avec mes défis familiales que je suis en train de traverser présentement. Les défis dans mon ministère, dans mon service pour lequel peut-être je suis découragé. Seigneur, je te le donne. La foi commence souvent là où les calculs s'arrêtent. Je répète, la foi commence souvent là où les calculs s'arrêtent. Troisième épisode, on va dans le chapitre 12. Et là, Philippe devient un pont vers Jésus. Des liens similaires au premier texte qu'on a vu. Et quand même, un autre groupe de gens ici est amené à rencontrer Jésus par son intermédiaire. Et je vous lis ici, c'est verset 12, chapitre 12, verset 21. 20 à 22, je vais vous lire. Il y avait quelques Grecs qui étaient montés pour adorer à l'occasion de la fête. Donc, on comprend que c'est des Grecs qui ne sont pas juste aléatoirement là ici, des inconnus, ils ne sont pas des prosélytes. Ils ont quand même un rôle ici parce qu'ils semblent être des adorateurs de ce qu'on peut en tirer. Et on dit, ils s'adressèrent à Philippe. Pourquoi Philippe? Je ne sais pas. Mais ils s'adressent à Philippe, le même bonhomme qu'on a vu déjà. Le même, un des douze qui était de Bethsaïda, en Galilée, qu'on a vu au chapitre 1. Fait que Jean ici, par son information, il dit, c'est le même, tu sais, que je vous ai parlé au chapitre 1, ben c'est lui que je vous parle. Il clarifie par la provenance de sa ville. Et lui firent demander, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Ils n'ont pas demandé de voir Pierre ou Jean ou de voir Philippe. Ils ont demandé à Philippe de voir Jésus. Et Philippe, qu'est-ce qu'il avait fait dans le chapitre 1? Il dit, viens et vois Jésus. Alors, Philippe alla dire à André, qui a l'air un peu plus proche de Jésus. André fait partie de la garde rapprochée avec Jean, avec Jacques, puis avec Pierre. Et donc, il va voir André, et ensemble, ils allèrent dire ça à Jésus. Et là, Jésus va prononcer un court discours qu'on va regarder tantôt, parce qu'il n'est pas adressé à Philippe, et pourtant, il nous est adressé à tous et chacun. Mais ce que je veux qu'on remarque ici, c'est que, encore une fois, Philippe sert de pont. Il est utilisé pour parler à ces gens et les conduire à Jésus en toute simplicité. Ils n'ont pas dit « nous voulons voir Philippe, nous voulons voir Jésus ». Et vous savez, la consécration ne consiste pas à attirer le regard vers nous-mêmes, mais à conduire les gens vers Jésus. Donc, d'où l'importance que ce n'est pas de mettre vers mes arguments, c'est de rencontrer Jésus qui va renverser tout raisonnement, toute crainte, toute problème spirituel. C'est Jésus qui renverse les forteresses, pas nous. Nous, on est juste des ponts. On l'aide à traverser d'un espace à un autre, à connaître la personne qui fait la différence. Et vous savez, que tu sois au travail, que tu aies tes enfants qu'on essaie de convaincre. Souvent, notre rôle est avant tout d'être le pont. Des fois, j'ai plus d'impact au lieu de donner des raisonnements, de penser au premier verset qu'il faudrait que j'y dise, de dire, est-ce que je peux aller avec toi ou avec vous dans la prière? On va en parler à Jésus. C'est ça conduire à Jésus, n'est-ce pas? Et des fois, on est timide, on n'ose pas proposer à quelqu'un de prier, comme si proposer à quelqu'un de prier, ça fait que nous, on serait plus spirituels. Ou qu'il faudrait plus être un croyant mature que l'autre pour lui offrir de prier pour lui, comme si prier pour l'autre demanderait un certain statut. Vous avez eu ce sentiment-là, des fois? Ou il faut être un bon prieur, tu sais, pour offrir à quelqu'un de prier avec lui. Il faut juste être un pont. Il faut juste être un pont. Ton problème, Jésus s'en préoccupe. Permets-moi d'en parler avec toi à Jésus et de lui prononcer une prière avec toi pour ce besoin-là. Une des choses que je remarque en vieillissant, que j'apprécie le plus, c'est quand quelqu'un fait ça avec moi. Il dit, « Hey Joël, je peux-tu prier pour toi? »« Hey, ben oui, mais en, prie pour moi. Prie, mets tes deux mains, fais tout. Écoute, moi, je prends toutes les prières qui passent. » Parce que c'est une des plus belles marques d'amour qu'on peut me donner. Quand on me dit, « J'ai prié pour toi. » Ou quand on dit, « Hey, tu peux partager ça, je peux-tu prier pour toi? » Puis là, quelqu'un met sa main sur mon bras, sur mon épaule, un geste d'affection, un geste d'identification, et prie pour moi. Ça n'a aucune importance que la personne qui prie pour moi a un an de vie chrétienne, est un super spirituel, a fait des études en théologie. Ça n'a aucune importance. Le Seigneur n'écoute pas plus les prières de quiconque, mais de celui qui prie avec un cœur sincère pour la détresse de l'autre, avec un cœur qui dit, eh bien, moi, je n'ai pas la solution, mais tu me permets-tu de te conduire à Jésus, s'il vous plaît? Oui, oui, oui. Parce qu'il n'y a pas plus beau geste qu'on peut faire entre nous que se conduire à Jésus. Et tu n'as pas besoin d'un statut pour conduire les autres à Jésus. Mais juste avoir ce courage, cette fierté de savoir que ton Jésus est tout ce que l'autre a besoin. Et que toi, tu n'es pas en mesure de rencontrer ce besoin-là. Donc, pourquoi pas le conduire vers celui qui a tout pouvoir, toute connaissance, toute capacité. C'est le plus beau geste d'amour que vous pouvez faire. Au travail, à la maison, dans votre voisinage. Vous savez, la consécration à Jésus nous transforme en un pont, un témoin. Et c'est ce que je veux vous retrouver, retenez ce matin de Philippe. Philippe fait le pont. C'est tout. Et ça, c'est accessible à chacun d'entre nous, sans aucune limitation. Quatrième épisode. Philippe réalise qu'il lui reste encore à connaître davantage sur Jésus. On va lire un texte que vous connaissez bien. On va lire un peu avant, un peu après pour apprécier ce fameux texte de Jean 14. Jean 14, allez avec moi dans Jean 14, et on va lire à partir du verset 6 que vous connaissez bien. Parce que là, c'est Thomas qui avait posé une question. « Hey, c'est quoi le chemin que tu parles? » Il dit, « Tu connais pas le chemin, voyons. » Puis là, Jésus, il dit quoi? « Je suis le chemin, la vérité, la vie, et personne peut aller au Père si ce n'est que par moi. » Verset 6. « Et si vous ne connaissez, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Il y a un gars qui s'appelle Philippe, il a levé sa main. Après cette fameuse phrase-là, Jésus, il est autour de la table, il est timide, là. Toutes les autres sont là, puis c'est pas évident de poser une question à Jésus. T'as l'impression que t'as pas écouté encore un de ses sermons. Tu devrais le savoir. Et il lève la main. Il ose poser une question à Jésus. Il dit, ben, en tout cas, là, tu dis quelque chose qu'on a l'air à savoir, être posé de savoir toute la gang, là, mais je comprends pas. J'aime ça, les gens qui posent des questions. Restez pas à votre place avec votre question. Bon, pas pendant le sermon tout de suite, là, mais hein, on est plusieurs. Posez votre question. Ça peut être intimidant, mais Philippe a levé sa main. Pas trop sûr que je comprends ici, là, le Père, puis toi, il y a quelque chose qui m'échappe, Jésus, là. OK? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Je suis avec vous depuis si longtemps. » C'est là que Philippe s'est fait sentir comme... Parce que là, il sent, il n'a pas tout compris, il y a quelque chose qu'il ne comprend pas, là. Et cependant, Philippe, tu ne m'as pas reconnu. Fait que ça touche l'identité propre de Jésus. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi dis-tu, montre-nous le Père? Tu es supposé de savoir ça, que quand tu le vois, tu vois le Père. Là, on dirait que c'est une nouvelle prise de conscience pour Philippe. Et là, il continue. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Au contraire, c'est le Père qui demeure en moi, accomplit ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et si vous ne croyez pas dans ma parole, croyez au moins à cause de ses œuvres. Parce que le Père montre par ma vie qu'il fait des œuvres qui viennent du Père, des miracles du Créateur. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi des œuvres que je fais et ne fera même plus grandes parce que je vais au Père. Wow! Effectivement, on lit les Actes des Apôtres et on comprend ici que l'Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus, par la puissance du Père céleste, du Père créateur, fait des miracles incroyables à travers ses disciples. Pas juste à l'époque-là, mais il y a eu d'autres miracles à travers les siècles que Dieu a fait par ses disciples. Et il dit tout à coup... Tout ce que vous me demanderez en mon nom, je le ferai, de sorte que le Père soit glorifié dans le Fils. Et si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Wow! Et notez bien ici, là, c'est dans mon nom et c'est pour la gloire de Dieu ce qui est demandé ici. C'est pas pour mon avantage, me sauver de l'argent aux impôts ou me donner une promotion ou à moins que c'est orienté vers par le nom de Jésus et c'est pour la gloire de Dieu que la demande est faite. Vous savez, cette fameuse déclaration-là qu'on a ici, là, Jésus l'a prononcée à la suite d'un petit disciple de Jésus qui ne comprenait pas. Et là, on peut tous se retrouver là-dedans, le petit disciple qui a encore des affaires qui m'échappent, puis qui a osé poser une question, duquel va venir une grande déclaration de Jésus, qu'on lit 2000 ans plus tard, parce qu'un petit Philippe a osé poser sa question. Comme Thomas, et duquel nous viennent ces déclarations incroyables et puissantes que Jésus a fait. J'aimerais vous lire un court texte que j'ai apprécié. Plusieurs d'entre vous ont déjà lu le livre « Doux et humble de cœur ». Okay? Et dans un de ses chapitres, au chapitre 14, il parle du Père des miséricordes. Un superbe chapitre. Okay? Et c'est toute cette question-là de Jésus et le Père céleste. J'aimerais vous lire une courte extrait, trois petits paragraphes, mais qui valent vraiment la peine d'être lus à ce moment-ci, alors qu'on lit ce texte-là et qu'il en parle. « Qui est Dieu le Père? Notre Père, justement. » Certains d'entre nous ont eu un excellent Père, d'autres ont été horriblement maltraités et abandonnés par le leur. On parle de Père ici. Quel que soit le cas, le bon en notre Père terrestre est une pâle imitation de la véritable bonté de notre Père céleste. Et le mal en notre Père terrestre est tout à fait l'opposé de l'identité de notre Père céleste. Il est le Père dont tout Père humain n'est que l'ombrage bien pâle. Dans Jean 14, Philippe demande à Jésus de lui montrer le Père aux disciples. Montre-nous-lui le Père. À cela, Jésus répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu n'as pas connu, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comme tu dis, montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que, etc. » Il le lit au verset. « Celui qui a vu le Père m'a vu moi. » Et voici comment il explique en toute simplicité. Ailleurs, dans le Nouveau Testament, on dit que Christ, qu'il est le reflet de la gloire de Dieu. Et l'empreinte de sa personne, du Père céleste lui-même. Jésus est Dieu incarné en homme. Jésus-Christ est la manifestation visible du Dieu invisible. En lui, nous voyons le Père miséricordieux se revêtir d'un corps et traverser le temps et l'espace. Lorsque nous voyons le cœur de Christ dans les quatre évangiles, nous voyons la compassion, la tendresse même de l'identité profonde de Jésus qui est Dieu. Et le Dieu qui est le Père des miséricordes. Une expression qu'on retrouve ailleurs dans le Nouveau Testament. Père des miséricordes. Il dit, quand tu me vois, mon ami, mon disciple qui marche, c'est Dieu le Père que tu vois à travers moi. Et si nous voyons de la bonté en Jésus, rappelons-nous que Jésus nous dit que ça traduit la bonté du Père céleste, du Père créateur, incarné en homme. On a vu à travers Jésus, nous voyons à travers Jésus, dans les évangiles, le Père céleste, le Dieu créateur. Wow! La question que Philippe a posée a fait sortir cette vérité incroyable. Quel courage et quelle leçon Jésus va profiter pour lui montrer qu'un disciple consacré continue d'apprendre. Un disciple consacré à Jésus continue de poser des questions à Jésus, continue de cheminer et d'encourager l'Église à continuer d'apprendre. C'est dans le même esprit de ce que Philippe fait et ce que Jésus fait avec Philippe gracieusement. Poser des questions et ne pas s'arrêter. On pourrait se poser, mais qu'est-ce qui est arrivé à Philippe par après? Hein? Et c'est intéressant, la tradition nous parle. Et évidemment, dans toute tradition, il y a des formes de vérité qui sont dedans, historiques. Il y a des mélanges aussi souvent de mythes ou de légendes qui ont été rattachés à ces hommes-là. Mais on nous dit que, et vous avez évidemment lu dans Actes, cette rencontre avec l'eunuque, que Philippe est utilisé pour parler avec l'eunuque dans cette rencontre, dans les Actes des apôtres bien connus. Mais après la Pentecôte, Philippe aurait voyagé en Phrygie, en Asie mineure. Là, il aurait vaincu un dragon et prédit l'Évangile. Selon la tradition, il serait mort en martyr, lapidé puis crucifié à l'envers dans la ville de Hierapolis, en Phrygie, là où il apportait l'Évangile. Et Philippe est associé évidemment à des miracles et à une guérison de malades, notamment aussi lors du baptême de l'eunuque éthiopien qu'on lit dans le chapitre 6, je crois, de Livre des Actes. Cet homme-là, ce qu'on veut retenir, c'est qu'il s'est consacré à Jésus. Et il a marché avec lui. Et il a eu un impact. Il a posé des questions, il n'était pas parfait, mais il a continué à cheminer avec Jésus et Dieu l'a utilisé. J'aimerais retourner en arrière deux chapitres. Revenez avec moi et on termine et on commence la conclusion en lisant les versets du chapitre 12, les versets 23 à 26. Où est-ce que l'appel à la consécration? J'aimerais vous lire ces textes qui vont nous servir d'invitation à chacun d'entre nous, mais mon invitation est particulièrement auprès des hommes. Verset 23, chapitre 12. Jésus leur répondit en ces termes, « Elle est venue l'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Alors, rappelez-vous l'histoire de Marie, « C'est pas encore mon heure. » Elle est venue l'heure. Et là, chapitre 12, jusqu'à sa crucifixion, se passe dans les 24, 48, 72 heures avant que Jésus soit crucifié. Elle est venue l'heure. Il se prépare, il est dans cette étape-là. Et donc, il parle beaucoup de la gloire de Dieu, de sa souffrance qui s'en vient dans le reste du chapitre, verset 20 jusqu'au verset 50. Et là, il dit, en vérité, je le dis, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. Si au contraire il meurt, il porte du fruit en abondance. Et je vous rappelle ici ce fameux fruit de l'abondance qu'on parle dans Matthieu chapitre 13. Il dit 30 fois, 60 fois, 100 fois les fruits. Celui qui aime sa vie la perd. Et je traduirais ici sa vie plus précisément, celui qui aime son âme, c'est le mot utilisé ici. Celui qui aime son âme, pas juste la vie terrestre, mais son âme, la perd. Et celui qui cesse de s'y attacher, littéralement la haie est utilisée ici comme verbe, en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Une question ici de préférence, de priorité. Et si quelqu'un veut me servir, qu'il se mette à ma suite. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Quel texte puissant. Je vous lis un court extrait d'un pasteur que j'apprécie, ou maintenant défunt pasteur, et il résume cette pensée-là, ici, de l'image d'agriculture qui est utilisée d'un grain. Jésus emploie l'image d'un grain pour illustrer la grande vérité spirituelle selon laquelle il ne peut y avoir de gloire sans souffrance, et de vie féconde sans mort, et de victoire sans soumission. Et là, ici, j'aimerais vous le relire, ici, pour les papas. OK? Je suis un papa, je me lis à moi-même le premier. Jésus emploie ici l'image d'un grain pour illustrer la grande vérité spirituelle selon laquelle il ne peut y avoir de gloire sans souffrance. Il ne peut y avoir de vie féconde sans mort. Il ne peut y avoir de victoire sans soumission à Dieu. Le grain en elle-même est fragile, il est inutile. Mais lorsqu'il est planté, elle meurt et produit du fruit. Et lorsqu'un grain meurt et remplit sa fonction, beauté et générosité sont au rendez-vous. Si la graine pouvait parler, elle se plaindrait sans doute d'avoir été mise au sol, froid et sombre, enterrée sous la poussière. Mais la seule façon pour lui faire atteindre son objectif est de passer par le processus d'être planté. Sinon, il n'y a pas de fécondité. Les enfants de Dieu sont semblables à des grains. Ils sont petits et insignifiants. Mais ils ont en eux-mêmes une vie, celle de Dieu. Cette vie ne sera jamais remplie si nous ne nous soumettons pas à Dieu et ne lui permettons pas de nous planter là où il voudra. Nous devons mourir à nous-mêmes afin de pouvoir vivre pour Dieu, nous dit les Écritures. La seule façon de produire du fruit dans notre vie, c'est de suivre Jésus dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Et je termine ici. Jésus, par ses paroles, nous met aujourd'hui au défi de lui abandonner notre vie. Notez ici le contraste entre solitude et productivité. Le contraste entre perdre et conserver sa vie que Jésus donne. Le contraste entre se servir soi-même ou servir Christ. Ou se faire plaisir ou recevoir l'honneur de Dieu le Père. Ça passe par la consécration. Et Jésus applique cette graine à sa propre vie qui doit mourir pour porter du fruit. C'est le centre de la discussion, sa mort imminente. Si je crois en Jésus et que je suis son disciple et que j'adhère comme un disciple de Jésus et donc que je m'identifie à sa mort, à sa résurrection et cette vie glorieuse, je dois l'accepter aussi le parallèle dans ma vie. Et c'est ça qui est difficile. Dans ma vie, pour qu'il y ait du fruit, il doit aussi y avoir de la mort. La mort à moi-même. La mort à moi-même comme disciple, homme et femme de Dieu. La mort à moi-même pour que tout à coup, il y ait du fruit qui soit porté par la vie de Christ en nous, par l'Esprit-Saint. Et ça, c'est dur. La mort à moi-même. Que Christ ait toute la place. Vous savez, un des défis qu'on a comme homme dans nos foyers et dont je suis le premier, c'est tout ce défi-là avec mes ambitions. Tout ce défi avec mon égoïsme. Tout ce défi avec avoir ce que je veux, mes accomplissements, mon orgueil. En tout cas, si vous n'êtes pas comme ça comme père, moi, en tout cas, j'ai tous ces problèmes-là. Puis je vous épargne le reste. OK? Et je l'ai déjà dit dans le passé, mais vous savez, nous les hommes, on est plus portés naturellement à dire je suis prêt à mourir pour ma femme. Fait que si quelqu'un veut me voler, là, je vais me mettre devant, puis je vais prendre la balle pour mourir pour ma femme. On sent de même, hein? L'homme défenseur. On est tous de même. On veut tous. Je vous défendrai, je protégerai. T'sais. Mais ce qui touche le plus nos femmes et nos enfants, c'est qu'on meurt à nous-mêmes de notre vivant. On reste en vie, là, mais on meurt à nous-mêmes à place. J'ai pas entendu d'amen, les femmes. Et avec ce amen-là, c'est nous prions pour vous. Nous prions pour vous. N'est-ce pas ce qu'on est tous appelés? Hein? Pas mourir pour une balle, mais mourir de mon vivant par choix. Seigneur, fais-moi mourir à moi-même. Tout cet égoïsme-là, tout cet orgueil-là, toute cette ambition-là, toute cette attention-là que je veux, cet honneur humain. Pardonne-moi, Seigneur, prends la place et que ce grain meure. Il peut sortir 30 fois, 60 fois, 100 fois son fruit pour le nom de Jésus. C'est ça l'invitation. Que je meure à moi-même. La deuxième invitation dans ce texte-là, quelle vie est-ce que je cherche à préserver le plus? Est-ce que c'est la vie terrestre que je cherche à préserver le plus ou je cherche à le préserver pour la vie éternelle? Est-ce que je suis axé davantage sur mes placements terrestres ou mes placements éternels? Est-ce que ma gestion financière est orientée davantage vers vie, mon plaisir maintenant ou la vie éternelle? Mon temps, mes pensées, la gestion, mes relations. Et Jésus ici, par son exemple, nous invite à une consécration totale au Père Céleste, à la suite de notre Maître. Le grain doit mourir. La vie, quelle vie cherches-tu? Et qui veux-tu servir vraiment ultimement? Qui a cette place d'être le Maître que tu veux servir? Et c'est intéressant, il a commencé par « Suis-moi », chapitre 1, à Philippe. Et là, il dit « Celui qui veut me servir... » qu'il me suive. Ça commence par « suis-moi ». Littéralement, c'est « sois mon acolyte ». C'est celui qui est à côté de moi et qui m'accompagne dans tout ce que je fais. Puis ça termine avec « suis-moi si tu veux me servir ». Du début à la fin. J'invite la chorale à s'approcher. Et j'aimerais terminer avec quatre questions en toute simplicité, des questions ouvertes à réfléchir face à ces quatre points qu'on a regardés ce matin avec la chorale qui s'installe. Écoutez bien, lisez bien attentivement ces questions pour nous dans la mise en pratique de cette invitation à la consécration. Jésus nous appelle à le suivre pleinement. C'est ça, la consécration. Première question, quel est le prochain pas d'obéissance que Jésus te demande aujourd'hui face à témoigner de ta foi? Quelle est la prochaine étape d'obéissance? Peut-être que vous avez peur d'obéir. Vous sentez que vous n'avez pas toutes les réponses pour obéir, que vous n'avez pas toute la compréhension pour obéir, mais Jésus vous demande d'obéir. C'est quoi qu'il vous demande, là, ce matin? Quelle impossibilité occupe actuellement tes pensées, davantage que la puissance de Dieu? C'est quelque chose qui est en train de t'omnibuler présentement, puis qui prend tellement la place qu'il n'y a plus de place pour la puissance de Dieu. Il y a juste de la place pour trouver des solutions que André, Philippe et les disciples cherchaient à la foule. Mais Jésus a un autre plan. C'est le plan de sa puissance. Est-ce qu'il y a quelque chose présentement qui est en train de jongler avec, là? Présentement. Puis ça prend tellement de place qu'il n'y a pas de place pour la puissance de Dieu. Et que Seigneur t'invite ce matin à laisser de la place à la multiplication de Dieu, la façon qu'il voudra. Je ne sais pas c'est quoi dans ta vie, mais il y a peut-être quelque chose, là, dans ta vie ce matin, que le Seigneur te demande de faire de la place pour sa puissance. Qui Dieu a-t-il placé dans ta vie pour que tu lui montres Jésus? Y a-t-il quelqu'un que Dieu place dans ta vie présentement et t'invite à juste faire ce pont, à prier pour cette personne? Et des fois, vous savez, le pont le plus important, c'est peut-être la personne la plus proche de nous, notre propre enfant, qu'on tente de convaincre, notre propre conjoint qu'on tente de convaincre, pour lequel le Seigneur ne veut pas qu'on convainque. Il veut juste qu'on le conduise à Jésus. Des fois, le conduire à Jésus, c'est d'agir comme Jésus. Des fois, c'est plus de prier pour lui que de parler de Jésus. À Seigneur, de te montrer par son Esprit Saint ce qu'il veut dans ta vie. Mais à qui Dieu t'invite à participer, à être le pont ce matin, à prendre soin? Et finalement, dans quel domaine as-tu besoin de mieux connaître Jésus plutôt que de simplement accumuler des connaissances religieuses ce matin? Par la lecture, par des livres. Mais Seigneur, je lis, mais je ne veux pas juste savoir des choses sur toi, Seigneur, ce matin. Philippe avait entendu Jésus, mais il ne comprenait pas encore que Jésus, c'était Dieu incarné homme. C'était le Père céleste que je voyais à travers Jésus. Il y a peut-être quelque chose, je lis, mais il y a peut-être de la connaissance, Seigneur, ce matin, que j'ai besoin que tu m'éclaires, que je connaisse de toi. Et que je ne saisis pas encore pleinement. C'est ça la vie de disciple. On est continuellement en train d'apprendre. Continuellement en train d'apprendre. Notre étude ce matin commence avec Jésus, suis-moi, et termine avec Jésus qui dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Vous savez, on a un beau piano ici ce matin. Et c'est le fun quand il est joué par quelqu'un qui sait comment l'utiliser. Si je serais là en train de jouer, vous n'apprécieriez pas. Ce serait pas pareil. Et là, je parle de piano, il faut qu'on ait quelque chose qui arrive comme ça. Mais on pourrait avoir un piano qui qui vaut beaucoup plus cher, beaucoup plus performant. Mais peu importe la grosseur du piano qu'on aurait et de la personne qui peut le jouer, si il n'y a pas un petit branchement, juste un petit discret qui paraît de rien, il y a un tout petit branchement, d'où vient l'électricité. Si ce branchement-là, il n'est pas là, le pianiste peut être excellent, ça ne changera rien, tu n'entendras rien. Le piano peut être le plus performant du monde et puissant. Le système de son peut être énorme. Mais si la petite switch là n'est pas on, et s'il n'y a pas d'électricité qui rentre dans cet appareil-là, elle n'a aucune valeur. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Est-ce que vous comprenez le parallèle que je vous amène à faire? Vous et moi, on a besoin de ce branchement-là qui fait toute la différence pour notre consécration. Et le nom de ce branchement-là, c'est Jésus. Prions ensemble. Oh, Père Céleste, merci pour ta parole. Merci pour les papas ici. Merci pour nos pères. Bénis nos pères, Seigneur, bien imparfaits qu'ils soient. Merci pour ce privilège d'être père et d'avoir un Père Céleste pour lequel on peut puiser tout effort, tout besoin de croissance pour être l'homme et la femme que tu veux qu'on soit, Seigneur, par le Père Céleste. Parce que ça ne se limite pas aux hommes, c'est pour les femmes autant que les hommes. Seigneur, merci pour cet exemple si simple de Philippe ce matin. Parle à nos cœurs, que nos cœurs ce matin se consacrent à toi. Que, Seigneur, tu fasses mourir ces grains et les fasse multiplier pour ta gloire. Et peut-être ce matin, il y a une lutte, Seigneur, je ne veux pas faire mourir ce grain. Je veux garder le contrôle sur ma vie, mais Seigneur, ça m'empêche de grandir. Ça m'empêche de vivre la satisfaction. Ça m'empêche de grandir en Jésus, d'avoir de l'impact. Et Seigneur, je te demande pardon ce matin de vouloir empêcher ce grain de mourir seul dans le sol froid et de porter son fruit, de passer par la souffrance, par la soumission, par l'abandon. Pardonne-moi, Seigneur, de résister. Ah, Seigneur, comme tu l'as fait avec Philippe, mais d'une façon toute nouvelle, toute fraîche, Seigneur, que mon cœur se consacre à toi ce matin. Tu mérites ma confiance. Seigneur, apporte les transformations que tu veux dans ma vie. Fais-moi grandir à la vitesse que tu veux. C'est correct, je vais m'y résigner. Fais-moi connaître ces nouvelles dimensions de toi qui m'échappent. Mais que je ne reparte pas de ce lieu, de ce moment avec toi, Seigneur, dans ta parole, sans être changé. J'ai besoin de toi ce matin. Je ne veux pas un autre sermon, je ne veux pas juste une autre étude, je ne veux pas juste une autre lecture, Seigneur. Je veux une rencontre avec toi ce matin. Change mon cœur. Et nous te le prions, Seigneur, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.